Шоу.
Vous êtes dans l'open mic. On est ensemble jusqu'à 11h30 plutôt avant que Pascal s'installe avec Jacinthe Varel, parler de l'actualité du jour, des gros dossiers. Ce matin, on reçoit un invité que j'avais vraiment hâte de recevoir parce que je trouve ça charmant. Je pense qu'on va en apprendre un peu sur le fonctionnement qu'on a au Québec avec les gens qui viennent chez nous. Mais je pense aussi qu'on va pouvoir parler de leur quotidien comme immigrant. Je trouve ça super intéressant. Daniel Flores, qui est un Mexicain qui s'est installé à Québec en mai 2023 et qui documente sur TikTok son apprentissage du français, sa nouvelle vie loin de chez eux. C'est un peu de tout là, qu'on observe sur son compte. Je veux dire que ce soit de présenter des lieux, un livre, un projet.
Sûrement de la poutine. Hein?
Ah, récemment, j'ose espérer, mais récemment, je l'ai vu sur les réseaux sociaux prendre un shot de sirop d'érable pendant une sortie de course. Fait que c'est charmant à suivre et il y en est à son 438e jour ici. Daniel, bon matin.
Bon matin, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Pascal.
Ça fait plaisir. J'ai envie de te demander pour commencer, pourquoi avoir choisi de venir à Québec?
Oui, donc c'était pas planifié. Moi, j'ai fait un bac en finance au Mexique et mon rêve c'était toujours d'aller à New York, mais c'était un peu difficile et j'ai choisi Toronto et j'ai fait un college diploma à Toronto. Donc, après mon graduation, j'ai obtenu un emploi à une compagnie d'assurance québécoise. Et c'est là que j'ai commencé à être curieux de la langue française, parce que beaucoup de communications de la compagnie sont en français.
Oui.
Et le siège social, c'est au Québec. Et comme j'ai fait de télétravail, j'avais l'opportunité de déménager à Québec pour continuer à travailler et pour apprendre français.
J'espère que tu n'as pas de regrets parce que c'est charmant, Québec.
Ah oui, non, je l'aime bien, franchement.
Je vois déjà des questions qui vont venir vite par rapport à ton parcours. Tu dis, moi, j'ai étudié en finance au Mexique.
Mm-hmm, ouais.
C'est pas quelque chose qu'on entend souvent.
C'est ça.
Comment est-ce que tu as été capable, toi, d'étudier les finances au Mexique? Est-ce que tu étais dans une classe peut-être un petit peu plus aisée financièrement?
Uh-huh, c'est ça. Donc, franchement, je suis pas... Je dirais les Mexicains moyens d'une façon économique. Mes parents sont très chanceux. Ils sont une très bonne vie au Mexique. Et ça m'a donné l'opportunité d'étudier dans une école privée. Toute ma vie au Mexique, même l'université, c'est une école privée. Donc, c'est pour ça que j'ai appris l'anglais. Et ils sont payés pour tout. Et ils encore payent pour mon projet d'immigration. Donc, c'est comme ça. C'est grâce à mes parents. Ils me soutiennent depuis toute ma vie, il continue à le faire.
Mais c'est pas beaucoup de jeunes hein, qui peuvent faire ça, je pense, au Mexique. Okay.
Tu fais partie des chanceux. Là.
Exact.
Est-ce que l'intégration se passe bien jusqu'à maintenant? Est-ce que les Québécois sont accueillants?
Oui, franchement, oui. Donc, c'est ça une autre chose que, par exemple, j'ai parlé avec une autre Colombienne et pour lui, c'est pas le même Québec que pour moi.
Okay.
Pour moi, je trouve les Québécois qui sont très chaleureux, très accueillants avec moi. Mais lui m'a dit l'inverse. Une fois que j'ai parlé avec lui, lui m'a dit que les Québécois sont très fermés.
Ah,
donc,
ouais?
Je pense que tous les immigrants ont des expériences différentes. Mmh. Et encore une fois, je suis très chanceux d'avoir tous les privilèges que j'aime, désolé, que j'ai, comme mon travail, que mes parents me soutiennent avec mon parcours migratoire d'une façon financière. Donc oui, mais franchement, je trouve les Québécois très accueillants, très chaleureux. Et pour moi, ils sont très similaires à les Mexicains. C'est pour ça que j'aime. Oui, à Toronto, je sens tous les gens un peu différents. Comme ils ne sont pas si chaleureux comme les Québécois. Donc, une fois que j'arrive à Québec, je me sens comme dans ma maison, mais dans une maison française. Donc, c'est vraiment différent, le Mexique et le Québec, mais il y a beaucoup de similarités que je vois entre les deux.
D'où est venue l'idée de commencer à publier sur les réseaux sociaux ton évolution du français? Est-ce que c'était une façon de te motiver aussi? Ou...
Donc, c'est... La vraie raison, c'est parce qu'avant de faire des TikToks de français, j'ai fait ces TikToks de finance en anglais et je n'aimais pas le fait que tous mes amis du Mexique et mes parents comprenaient mon TikTok en anglais. Et j'ai enlevé tous mes TikToks en anglais de finance.
Ah, ouais.
Mais j'avais dans la tête, oh non, je dois continuer d'une façon. Donc j'avais ça dans la tête. Et c'est à le même moment que j'ai commencé à apprendre la langue et je me suis dit, OK, je vais faire TikToks en français parce que comme ça, je peux maîtriser la langue. Et tous mes amis du Mexique, mes parents, ne vont pas comprendre rien
de
drôle. Ce que je dis.
Pourquoi tu ne voulais pas qu'ils comprennent?
Je ne sais pas, je suis très timide.
Est-ce que tu avais dit, OK?
C'est pour ça, mais C'est un peu bizarre parce que je suis timide, mais même à tous les jours, je m'enregistre, je fais des TikTok. Donc, c'est une chose dans laquelle je travaille, d'être moi timide et de partager ma vie avec les autres.
T'es plus à l'aise avec des inconnus versus qu'avec des personnes proches de toi?
C'est ça, mais dernièrement, c'est plus facile pour moi de que, par exemple, mon père aime mes TikToks en français.
Oh, c'est
donc,
mignon!
Oui, c'est très bizarre. Il me donne des likes, il partage mes TikToks.
Oh,
donc,
wow! Ouais. Parlons-en du français. Mm-hmm. Comment est-ce que tu as fait en 438 jours et des poussières pour apprendre si rapidement? Parce qu'on a des enjeux avec la francisation au Québec.
Oui, donc je pense que le fait d'être hispanophone aide un peu parce que l'espagnol et le français se ressemblent. On peut pas beaucoup. Bon, oui, mais à la fois non parce que le vocabulaire c'est très différent des fois. Mais bon, je suis aussi très chanceux parce que mon employeur me donne des cours gratuits de français. Okay. Donc j'avais le soutien de mon employeur. Et en plus de ça, je me suis inscrit à des cours privés de français parce que j'essayais de m'inscrire à les cours de francisation. Mais il avait une liste d'attente très longue. Je me suis dit, oh non, c'est impossible. Je vais perdre 3 mois sans apprendre rien. Donc, j'ai choisi les cours privés que me donne mon employeur et que ma famille me payait. Donc.
C'est comme, puis, tu es chanceux quand même parce que c'est ça. Tu as les moyens de pouvoir te les payer au privé. Mais on va se le dire, la majorité des gens qui arrivent ici doivent passer par le processus. Il y a eu des coupures récemment, ce qui est un peu ridicule. Puis, on
déjà
demande en plus de français en 6 mois. Mm-hmm. Là.
Déjà qu'il manquait de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est ça, est-ce quand même important à explorer? Est-ce qu'on avait des demandes quant à ton apprentissage du français en tant qu'immigrant? On te demandait 6 mois, un an. Est-ce qu'on suivait ton parcours? Est-ce qu'on te demande quand même d'aller rencontrer certaines personnes pour voir t'en es rendu?
Pour les Français, comme un requis migratoire, oui. Donc, je suis maintenant dans le processus de résidence permanente et c'est par un programme provincial du Québec. Donc, Québec demande un niveau de français à l'oral de B2. Je ne sais pas si vous
sonnez B2.
B2. Donc, le niveau de langue, c'est comme A1, A2, B1, B2, jusqu'à C2.
Okay.
Donc, le gouvernement de Québec demande un B2, que ce n'est pas un français très fluide, mais tu peux te communiquer. Donc, donc oui, j'avais la pression de réussir à atteindre le niveau B2.
En combien de mois?
Pour moi, quand je suis arrivé au Québec, j'avais encore 2 ans et demi de permis de travail. Mm-hmm. Donc, je n'étais pas si pressé, mais je me forçais à moi-même l'année dernière de prendre beaucoup de cours de français, de lire tous les jours en français.
Parce que c'est plus facile aussi après, là.
Oui, c'est ça. Donc, c'était comme une immersion naturelle, mais oui, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de ces efforts l'année dernière pour réussir en juillet à atteindre le niveau B2.
C'est fascinant, Audrey. Tu sais, je veux dire, on les pousse à apprendre le français, à le maîtriser, pour une raison qu'on comprend, je veux dire, communicationnelle et aussi trouver du travail, puis pouvoir quand même réussir à s'immerger dans cette culture-là, qui est celle du Québec, mais de ne pas aider par les cours, le manque de main-d'œuvre. C'est comme si je te demandais d'apprendre à conduire, mais je ne te mets pas de clé de voiture, je ne te mets pas d'enseignant. Tu n'as
pas d'outils.
Tu n'as pas d'outils, puis apprends ça rapidement.
Puis, tu sais, je veux dire, 438 jours, moi, ça m'épate parce que je ne sais pas si je pourrais apprendre, mettons, l'espagnol. Puis le pire, c'est que tu as raison, l'espagnol puis le français, ça se ressemble quand même. Moi, j'ai eu plus de facilité à apprendre l'espagnol que l'anglais.
Oui. Normal, c'est une langue latine.
Oui, exact.
Essaie l'italien, il t'en a 5.
Mais
c'est
quand même difficile de devenir fluide. Puis, fluide en passant. Tout le monde comprend super bien. Moi, je comprends super bien.
En fait, je pense que c'est plus facile pour les Québécois d'apprendre l'espagnol que pour moi, comme Mexicain, d'apprendre le français. Moi, j'ai déjà rencontré presque 10 personnes québécoises qui parlent un espagnol parfait.
Ah ouais?
Que je ne savais pas qu'ils sont québécois s'ils ne me l'avaient dit pas.
Pas dit, oui.
Des jeunes?
Je pense
que
c'est possible. Des jeunes, des anciennes.
Parce que maintenant, c'est dans le cursus scolaire, là, dans beaucoup d'écoles secondaires.
Bien, on apprend la base, là, on apprend vraiment l'orthographe, les verbes, ces choses-là, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pratique pour que ça devienne fluide au parler. C'est étrange, je suis capable de lire l'espagnol mieux que je le parle, ce qui est assez spécial, probablement à cause de la façon dont on l'enseigne. C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans l'apprentissage de la langue française? Si tu dis que c'est moins facile pour moi d'apprendre le français que l'inverse.
Vocabulaire, parce que des fois, dans le français, il y a vocabulaire, je dirais comme de l'anglais, de l'espagnol, mais aussi il y a beaucoup de vocabulaire qui est unique dans le français. Bien sûr, les liaisons, à l'écrit et à l'oral, ça c'est vraiment difficile. Les prononciations et la différence de la prononciation avec la façon que tu dois l'écrire. Ça, c'est un défi encore. Le français écrit, c'est le plus difficile pour moi.
Est-ce que le masculin-féminin, c'est difficile?
Oh oui, oui, ouais, oui. Hein? Oui. Franchement, je ne pense pas beaucoup en ça. Je ne me préoccupe pas beaucoup de si je vais faire des erreurs ou pas, parce que c'est sûr que je vais le faire quand je parle. Mais je pense que naturellement, je commence à améliorer mon distinction des masculins et féminins.
Ah, c'est le fun. Tu disais que là, tu es dans le processus pour ta permanence.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est compliqué?
Oh oui, c'est très compliqué. Bon, c'est beaucoup... Tu dois remplir beaucoup de documents. C'est un peu stressant. Franchement, beaucoup de gens me disent « Oh, tu peux le faire pour toi-même. » Mais ça me stresse beaucoup, tout le processus migratoire. Donc moi, je suis chanceux, j'ai un avocat qui m'aide dans tout le processus. Donc, c'est possible de le faire par toi-même, mais à mon avis, c'est très stressant parce que tu n'es pas sûr si tu le fais de la façon correcte.
Ouais. Puis il y a des délais aussi, là.
Oh, oui, il y a des délais. Donc, j'ai commencé en août et je pense que je dois attendre jusqu'à 7 août ou octobre pour que ce soit la résidence.
Le plus grand défi que tu as dû relever depuis ton arrivée à Québec, mis à part la langue?
Oh oui, ben, l'hiver.
L'hiver?
Oui, oui, oui.
C'était beaucoup demandé
ça
par texto.
Ça revient par texto, oui.
Tant que ça, une fois bien habillé, non, ça ne fonctionne pas.
Franchement, ça commence à être meilleur que par exemple, mon première année à Toronto, j'ai souffri beaucoup. Les deuxièmes aussi. Mais j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport mon deuxième et troisième hiver et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la seule façon que je peux comme, rester moi-même sans que mon humeur... De clan?
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Donc, je dois faire du sport, je dois manger vitamine
pour garder, D, okay,
je
comprends.
Bien manger.
Pour bien supporter l'hiver.
Oui, pour être moi-même, parce que sinon, je me sens comme très triste, très...
Ah, mon Dieu, je vais t'apprendre quelque chose, Daniel. Nous, on a la dépression saisonnière ici.
Oui, j'ai appris ça.
Oui, c'est ça. Quand l'hiver arrive, je pense que c'est le manque de soleil, le fait que les gens sortent moins. C'est sûr que ça a quand même un impact, là.
Oui, le défi, franchement, c'est l'hiver encore, mais je commence à l'aimer. J'aime les courses à pied et je trouve plus fun de courir en hiver qu'en été. Je sais pas, c'est beau de voir le Québec avec la neige.
Et puis là, tu as le carnaval qui s'en vient. Là. Ah, oui. Est-ce que tu as déjà vécu le carnaval
de
Québec?
Non, je dois aller parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit. Oh, l'année dernière, je ne le fais pas, donc cette année, je dois le faire.
C'est vraiment le fun.
Comment ça se passe relationnellement? Parce que tu dis que bon, tu as un ami qui, pour lui, c'est un petit peu plus difficile en fait, de s'intégrer et tout ça. Puis j'avais déjà reçu une personne qui venait de l'Afrique puis qui a dit, culturellement, nous, on ne parle pas d'orientation sexuelle, mais pour lui, il aimait les femmes. Puis il dit, dans notre culture, on les approche. Puis quand c'est non, c'est on continue. Puis tout ça, c'est le charme, il s'effectue comme ça. Mm-hmm. On fait du rentre-dedans. Nous autres, on doit vraiment charmer. Si, sans oui, c'est non. Si tu continues de nous charmer, puis on n'a rien demandé, puis on ne veut pas, ça peut même être criminel. Relationnellement, entrer peut-être en communication avec un homme ou une femme, pour que ce soit la crouse ou encore... Comment ça fonctionne ici? Est-ce que tu trouves que c'est différent versus au Mexique?
Ah, franchement, pas. Non, bon... Peut-être avec les anglophones, oui, à Toronto, j'ai senti une différence comme dans l'humour, mais ici à Québec, je pense qu'ils sont comme très similaires aux Mexicains. Je ne trouve pas de différence. Je vois comme... Je peux parler avec quelqu'un sans être trop préoccupé de quoi est-ce qu'il va penser de ma question ou quel que soit. Donc, je dirais que c'est la même chose. Je pense qu'ils sont, en général, extrovertes. Mais, bien sûr qu'il y a des introvertes, mais pour moi, je les trouve... la même chose que les Mexicains.
C'est pas extraverti.
Oui, extraverti en général.
Les plus grandes différences culturelles entre chez toi et le Québec, tu dirais que c'est quoi?
Peut-être que c'est la nourriture. Je sais pas. C'est plus culturel. Ici, la société, c'est très like. Pas de religion, tu comprends?
Oui, absolument,
oui,
je comprends.
Mais au Mexique, ça, c'est différent. Au Mexique, on est...
C'est plus religieux?
C'est plus religieux. Encore, ça commence à changer, mais ça, c'est les plus grandes différences que je vois. Je pense que je vois ici beaucoup de monde qui est athéiste ou agnostique. Au Mexique, les gens, ils sont aussi, mais ils ne le disent pas. On a peur de dire
que... C'est pas assumé. Sont...
Non. C'est comme, tu dois être... Bon, c'est comme un tabou de le dire.
Donc, je comprends.
Ça aussi, je vois comme... Peut-être l'aspect religieux. Bon, la nourriture, c'est très différent au Mexique et ici.
Là, tu as goûté la poutine, là.
Ah oui, bien. Puis... Oui, je dois de manger, moi, des poutines. C'est ça, le
OK, t'aimes ça beaucoup.
Oui, muy bien.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on traite nos aînés?
Aînés?
Les gens plus âgés. Les gens plus âgés que nous, nos parents, nos grands-parents.
Ah, je sais pas. Je veux pas ça en côté.
Non, c'est ça. Tu sais pas pourquoi faire ça, hein?
Non,
je sens que, puis dis-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris de l'extérieur, j'ai l'impression que les Mexicains sont très, très chaleureux avec leurs aînés, les plus vieux qu'eux.
Ah, OK. Beaucoup de respect.
Beaucoup de respect.
Mmh. Oui.
Au Québec, c'est parce qu'on a des enjeux avec ça. Avec avec la façon dont on loge nos aînés. Il y a quelques enjeux que tu découvriras à travers le temps, probablement.
Oui, parce que moi, comme Mexicain, depuis que je suis un enfant, ma mère me disait, tu dois respecter toujours les personnes plus âgées que toi.
Ah, ça se disait dans un discours.
Oui, moi, c'est une chose, moi, dans n'importe quelle situation sociale, si je parle ou si j'ai un problème, je ne sais pas, avec une personne qui est meilleure que moi.
Plus âgée.
Plus âgée. Je reste très respectueux, même s'il a les raisons et une chose comme
qu'il
ça.
Qu'il ait raison ou pas,
oui,
le
si
respect
est,
prédomine.
Si il est plus âgé que moi, je vais toujours le respecter. Okay. C'est comme ça que je suis depuis que je suis un enfant. C'est parce que ma mère me disait toujours.
Ça faisait partie de l'éducation.
Oui, je pense que c'est partie de l'éducation au Mexique.
Oh, wow. Ben, tu vois, ça ici, ça manque.
Ah oui?
Oui, ça manque. Quand, ben, je sais pas ce que Pascal t'en pense, mais honnêtement, ça manque beaucoup le respect envers l'aîné.
Oh, wow.
J'ai envie de te demander, parce que on va aller à la pause, puis après, on va jouer à un jeu.
Mm-hmm.
Parce que je veux qu'on teste les expressions québécoises, ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ce qui nous définit ici au Québec. J'aimerais peut-être juste te demander avant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'installer au Québec?
Ah, bon, d'être curieux de la culture, parce que aussi, depuis que je suis un enfant, j'ai appris qu'on doit nous adapter à l'endroit où nous sommes. Le monde ne va pas s'adapter à nous. Donc, c'est comme ça que je pense depuis toute ma vie. Et oui, je dirais d'être curieux de la culture, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir la diversité de le Québec, la histoire, de s'intéresser dans la histoire du Québec. Je pense que c'est unique. C'est pour ça que je suis très heureux ici, parce que c'est un endroit unique dans l'Amérique. Donc, je dirais d'être curieux.
Oh, j'aime ça. Mm-hmm. On est avec Daniel Flores, un Mexicain qui s'est installé à Québec en mai 2023, qui documente son apprentissage du français, sa nouvelle vie loin de chez lui. Au retour, on va jaser d'expressions québécoises. Si vous avez des suggestions, 88-971-102, on revient, vous êtes dans l'Open Mic.
Ledge against le matin. Avec Marceau et Audrey Pinchot.
On est toujours là, en forme, on a du plaisir. Il est pratiquement 11h pile à Boulevard 101, vous êtes dans l'Open Mic. Il nous reste une demi-heure ensemble pour jaser et pour vous gâter. Lynyrd Skynyrd, qui va être en spectacle à la Place Belle le 20 septembre prochain dans le cadre de la tournée Celebrating 50 Years avec Outlaws, The Outlaws, qui va être là aussi, un spectacle qui est à ne pas manquer. Cette semaine, soyez à l'écoute de Boulevard 101, vous pourrez gagner votre paire de billets. Les billets qui sont en vente au evenco.ca. Et on a une paire ce matin. Pascal, mot magique au 88-971-102.
C'est moi qui décide?
Mot magique, tu décides ce que tu veux.
Le prénom de notre invité qui est actuellement en studio.
J'aime ça. 88-971-102, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone tout simplement et on va faire le gagnant un peu plus tard. Là, si vous êtes à l'écoute, évidemment, je vous donne une partie de réponse parce qu'on réaccueille Daniel Flores, qui est un Mexicain qui s'est installé à Québec en mai 2023, qui documente son quotidien sur TikTok, son apprentissage du français. Et là, après t'avoir interrogé Daniel pendant, une vingtaine de minutes, on va jouer un peu, là, parce que ce qui nous définit au Québec, entre autres, c'est nos expressions québécoises qui varient d'une région à l'autre. Fait que même nous, comme Québécois, des fois, on comprend pas nécessairement tout,
parce
que c'est propre à chacun, dépendant des régions. Il y a déjà beaucoup de suggestions, d'ailleurs, là, qu'on reçoit par texto pour te poser les questions. Est-ce qu'il y en a que tu utilises déjà comme expression québécoise?
J'aime la phrase parce que je la vois souvent dans mes commentaires. « Lâche pas la patate ».
Lâche pas la patate. Donc,
je l'aime.
Ça, c'est assez clair. Lâche pas...
Continue.
Lâche pas la patate. Ouais. Tigidou. Tigidou, est-ce que ça dit quelque chose?
Ah, c'est comme dire « Salut » ou « Bye, Tigidou ».
Tigidou, c'est plus comme OK, c'est comme une façon d'approuver, mettons « Hey, je vais aller chercher mon lunch, je reviens te voir dans deux minutes.
Okay. »
Tigidou.
Oui, je l'écoute des fois au bureau, mais je
tu l'utilises pas encore.
Non, non.
Pascal?
Ah, oh, c'est mon tour! OK, parfait. Bon, passer la nuit sur la corde à linge.
Sur la corde à linge.
Comme si on te mettait sa corde, là.
Oh non, j'ai aucune idée de quoi ça va dire que ça.
Pas avoir dormi du tout.
Ah, OK.
Oui. Ça veut dire que tu as l'air fatigué. Tu as l'air.
Tu as peut-être fait le party, tu as peut-être mal dormi, mais clairement, ta nuit n'a pas été réparatrice.
Ah, OK. Est-ce que tu peux la répéter?
Passer la nuit sur la corde à linge. Hey, t'as-tu passé la nuit sur la corde à linge?
Ah, OK. Pas hier, mais des fois.
J'aime ça. Se revirer sur un 10 cents.
Se revirer sur un 10 cents.
Se revirer sur un 10 cents.
Non, aucune idée.
C'est le fait d'être rapide pour trouver une solution, d'improviser. Mettons, je sais pas, il y a un changement de plan puis j'étais pas prête. Je vais dire, OK, je vais me revirer sur un 10 cents. Ça veut dire, je vais m'adapter rapidement, je vais trouver une solution.
Ah, OK.
Se revirer sur un 10 cents.
Se revirer sur un 10 cents.
Oui, sur un 10 cents, exactement. Être assis sur son steak.
Être assis sur son steak, ça a l'air à quelque chose comme... Je suis très tranquille maintenant, dans mon lit, quelque chose comme ça.
T'es quand même pas loin. C'est être paresseux, être amorphe, être un peu nonchalant. Le fait qu'être paresseux, c'est être assis sur son steak. Je fais pas grand-chose.
Steak, OK.
Si je te traite de boss des Bécosses... Hey, t'es un boss des Bécosses. Hey, calme-toi, le boss des Bécosses. Là.
Boss des Bécosses.
Ouais. Ça dit
Est-ce
quelque
que
chose?
Ça, c'est un compliment?
Non.
C'est loin d'être un compliment.
C'est pour décrire une personne qui peut être détestable, là, quelqu'un qui essaie de mettre sa loi puis d'asseoir son autorité, mais ça n'a pas rapport. Là, c'est pas à lui de le faire. Là.
Oh,
on va se calmer le petit boss des Bécosses.
Donc, c'est pas positif.
Non, fais pas ça avec ton employeur.
OK.
Dis-y jamais boss de Bécosses. OK. Avoir de la broue dans le toupette.
Avoir la broue dans les putettes?
Dans le toupette.
Dans les toupettes. Non.
Ça te dit rien. Est-ce que tu sais c'est quoi un toupette?
Toupette, je sais quoi, c'est un touc, mais une toupette, pas.
Un toupette, c'est comme la coupe de cheveux, là, que tu vas avoir les cheveux dans le front, là.
Ah,
un toupette, là.
Okay.
Fait que nous, ça s'appelle un toupette, mais avoir de la boue dans le toupette, c'est être super occupé, être débordé. Fait que, mettons, aujourd'hui, t'es super pressé, il y a plein de choses au travail, t'as de la broue dans le toupette.
OK, wow, non, je le sais. C'est la première fois que je l'écoute.
Péter de la broue, ça te dit-tu quelque chose?
Péter de la broue.
Il va sortir, tu sais, il va saigner du nez.
Ouais, ça va être trop en même temps.
Est-ce que c'est grossier? Non, rien.
Péter de la broue, c'est un peu comme le boss de Bécosse, c'est de se placer sur un piédestal, c'est d'avoir une grosse estime de soi, puis de se vanter, de péter de la broue.
OK. C'est ça que ça veut dire. C'est pas positif non plus.
Ben c'est pas positif, c'est... Ah, tu pètes de la broue. Non, c'est pas positif, c'est plus une façon de dire que quelqu'un... radote, raconte ses petites histoires, puis a une grande estime de lui-même.
Ah,
là.
Comme cocky en anglais?
Oui, c'est une belle façon de le traduire.
Patente à gosse. Ah, ça, c'est une patente à gosse.
Patente à
gosse. Tu parles d'une patente à gosse.
Patente à gosse.
Quelle patente à gosse m'a amené là, Daniel?
Quelques nouvelles?
C'est une cochonnerie. C'est quelque chose qui est déficient. La structure est déficiente ou encore c'est un objet que tu t'en fous. Puis ça sert à rien. Ça gosse, donc c'est une patente à gosse. À gosse, la patente.
Mais par exemple, un exemple?
Mais mettons tes parents qui trouveraient que tu es trop souvent sur ton cellulaire. Mm-hmm. Ils pourraient dire, là, enlève-moi ta patente à gosse de la table.
Ah, ouais. Okay,
ou arrête de jouer avec ta patente à gosse.
Patente à gosse. Mais ça, c'est pas trop grossier, Jimani.
C'est pas grossier du tout.
Ah, okay,
tu peux le dire à ton boss.
Ah, OK. Je vais le dire pas, mais OK.
Cogner des clous.
Cogner des clous.
Cogner des clous.
OK. Clou, c'est la même chose qu'en anglais, clou?
Non.
OK.
Un clou, c'est comme une vis. Un clou, tu vas taper avec un marteau pour un clou.
Cogner
des clous.
C'est comme une chose que tu le demanderais à quelqu'un de faire ça, please? Ou non?
C'est tomber de fatigue. C'est être vraiment, vraiment fatigué. Quand t'es épuisé, là, on dit, voyons, tu cognes des clous aujourd'hui.
Cogne des clous.
Ça veut dire que t'as de la misère, là. T'es fatigué.
OK. Comme tanné?
Épuisé plus.
Épuisé, OK.
Épuisé. Okay, fait que t'as pas beaucoup dormi. On a aussi les yeux dans graisse de bine, qu'on dit.
Ah,
les yeux dans graisse de bine.
Oui,
fatigué, là. T'es pas tout à fait là aujourd'hui.
Si tu conduis, tu t'endors au volant, tu peux dire, hey, je cogne des clous, là.
Cogne des clous.
Ouais, faut t'arrêter en passant.
Je vais voir les vidéos après parce que c'est très difficile.
On va te sortir la vidéo puis tu pourras les apprendre.
Si je te dis l'affaire est ketchup.
L'affaire
est ketchup.
Comme c'est fini, c'est fait?
Presque, oui, mais positivement. Là. On vient de finir une grosse tâche à job, on est content. Hey Daniel, l'affaire est ketchup.
C'est terminé.
L'affaire est ketchup.
Oui,
ah,
c'est
nice.
Réglé.
J'aime ça.
C'est le fun, ça, l'affaire est ketchup. Se calmer le pompon.
C'est calmer les pompons.
C'est calmer le pompon.
Est-ce que si quelqu'un est fâché, je lui dirais, hey, c'est calmer les pompons?
Oui, oui, exactement. Calme-toi le pompon. Ça veut dire, garde ton calme. Fâche-toi pas. Calme-toi le pompon.
C'est grossier ou c'est pas trop grossier?
Non, c'est pas grossier. Ça, tu peux utiliser ça.
Nécessairement ce mat-là.
C'est pas le fun en se faire dire. Calme-toi le pompon. Tu dis ça entre amis. Tu dis pas ça à quelqu'un que tu connais pas. Okay. Ça va mal terminer.
OK, OK.
Vas-y. Si je te dis, OK, peut-être que tu l'as déjà entendu, là, mais spacta à fraise.
Spacté à fraise.
Beaucoup d'auditeurs voulaient qu'on te pose cette question. Spacté la fraise. Hey, tu t'es-tu pacté à fraise, toi, hier?
Oh non, je sais pas.
As-tu bu pas mal hier?
Ah,
t'es-tu
okay,
venu sous Pompette Funky ou Lélé sur Grande Allée, Mont-Daniel?
C'est
t'es-tu
comme...
pacté à fraise?
Donc, c'est pour une personne brosse. Qui était décalissée. Les...
Ben, si tu veux, ça peut être traduit par tu t'es-tu décalissée.
Mais c'est,
ça,
oui, c'est une autre façon. Oui, ça, c'est plus gros.
Oui, okay.
Décalissé, on évite de le dire souvent. Oh,
mais beaucoup l'ont vécu.
Mais oui, oui, absolument, mon Dieu. Mais c'est comme, c'est virer une brosse.
Oui.
Tu l'as-tu entendu, celle-là,
boire
virer
trop
une
d'alcool.
Brosse? Ça, c'est boire trop d'alcool.
Ah, OK. Fait
que t'as viré une brosse hier. Avoir une montée de lait.
Montée de lait.
Avoir une montée de lait.
Lait, c'est comme la lait que tu bois?
Oui.
Montée de lait. Non, bon.
T'es vraiment fâché. T'es en colère, tu t'emportes, tu perds complètement ton calme, tu fais une montée de lait. Mettons, j'anime l'émission, tout va bien, puis à un moment donné, je me fâche pour une raison, mais Pascal peut peut-être me dire, « Hey, t'as fait ta montée de lait, hein? »
Ah, OK.
C'est comme ça qu'on l'utilise.
Mais t'en donner une positive. Avoir des papillons.
Ah, oh, c'est positif.
Oui, ça, c'est positif.
OK, OK.
Avoir des papillons, est-ce que tu sais c'est quoi?
Oui, c'est ça.
C'est quoi?
Oui, c'est comme... Oh. Bon, en espagnol, en anglais, butterflies. Donc,
oui.
Oui. Donc, c'est ça la façon de l'utiliser?
Oui.
Okay.
Avoir des papillons.
Okay.
Tu rencontres quelqu'un, cette personne-là te plaît.
Ah non, avoir des papillons.
Avoir des papillons.
En espagnol, c'est exactement la même chose.
Oui. Comment vous
mariposa,
dites?
Mariposa, c'est ça?
Tengo mariposa.
Ah, c'est tellement mignon. Oui. J'aime tellement la langue espagnole. Oui. Se tirer une bûche. Ça, on l'utilise quand même beaucoup. Ben moi, chez moi, on l'utilise beaucoup. Tire-toi une bûche.
Une bûche? Non. Je sais pas.
C'est comme j'aurais pu te dire ce matin quand t'es arrivé, Daniel, tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche, ça veut dire t'es invité à t'asseoir, à prendre un siège, à joindre la table, à joindre. Ouais. Tire-toi une bûche.
Pour recevoir quelqu'un chez toi.
Exactement. Fait que si j'arrive chez toi, tu peux me dire, Audrey, tire-toi une bûche. Ça veut dire, viens t'asseoir, là, mets-toi confortable.
Tire-toi une bûche.
Tire-toi une bûche.
OK, nice.
Daniel, attache ta tuque.
Attache ta tuque comme. Je le dirais peut-être à quelqu'un comme. Prépare-toi pour la. Prochaine chose que je vais dire ou pas?
Ah ouais, ça pourrait être appliqué comme ça. Je pourrais dire, OK, attache ta tuque, j'ai quelque chose à te raconter.
Uh-huh.
Ça pourrait être, OK, on part en voyage, attache ta tuque. Ça peut être, on commence un gros projet, attache ta tuque.
Sois prêt.
C'est soit prêt, mais pas à peu près.
OK.
Ça va être quelque chose.
Attache ta tuque.
Attache ta tuque.
Ah, ça me fait rire parce que les auditeurs apprécient beaucoup ce jeu-là. On reçoit des textos, là, les gens veulent te tester. Est-ce que tu as déjà entendu péter le feu?
Péter le feu. Péter le feu.
C'est être en forme, avoir beaucoup d'énergie. Je pète le feu.
Non.
Aujourd'hui, là, je pète le feu, je suis en forme, ça va bien, je suis motivée, je pète le feu.
Pète le feu. C'est comme une chose pour moi-même, pour me dire.
Oui.
Ouais.
Ah,
OK. Et là, tu as de l'énergie aujourd'hui. Je pète le feu.
Pète le feu. Okay,
c'est le fun, bon. Ça. Tu le diras à tes abonnés. Pète le feu.
Je pète le feu aujourd'hui. Vous, pétez-vous le feu. Tu peux le demander. Ta question était. Uh-huh. Tu peux aussi demander à quelqu'un. La cerise sur le sundae, Daniel. Tu te dis, ça, c'est la cerise sur le sundae.
La cerise sur le sundae.
Ouais.
La cerise sur le sundae. Bon, sundae, c'est le crème glacée.
Oui.
La cerise.
C'est une expression. Elle peut être autant utilisée positivement que négativement. Ça veut dire que là tu as une grosse journée, rien qui fonctionne. Hey, là, une autre affaire qui arrive. Ça, c'est la cerise sur le sundae, je suis plus capable. Mais ça peut être aussi super positif, du genre, il y a une belle table au restaurant, c'est super bon, puis là, il y a un plat qui arrive, puis c'est un autre super bon plat. Puis ça, c'est la cerise sur le sundae.
Ah, la cerise sur le sundae.
Sur le sundae.
Ah, oui, c'est comme...
Le top.
Oui.
Mais positivement ou négativement.
Oui, si quelque chose est mauvaise, mais ça termine pour être encore plus mauvaise,
oui.
Si tu dis ça.
Oui.
Ou si quelque chose est... positif et termine pour être encore plus positif, tu le dis aussi.
Exactement.
C'est la même chose en espagnol.
C'est quoi?
C'est cherry? Ça, c'est cherry?
Oui.
Oui, on dit la cereza sobre el pastel. Donc, c'est
sur similaire. Le
pastel, c'est gâteau.
Oui.
Donc, oui, c'est très similaire.
Ah, mon Dieu. Mm-hmm. Ici, il y a Lisette qui nous dit, qui propose les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Ah, oui. Ça a l'air une chose que je dirais quand j'ai fini quelque chose. J'ai fini de cuisiner ou j'ai fini un travail, non?
Bien, t'es pas trop loin. Oui, c'est quand quelque chose est terminé, mais c'est quand tu peux pas revirer de bord. C'est, comment je te dirais ça? T'es un peu désespéré, puis tu peux plus t'en sortir. Les carottes sont cuites. C'est terminé.
La situation
est close. T'sais, en voulant dire, tu peux pas récupérer, là, c'est terminé. Mm. Les carottes sont cuites.
Cette expression-là est vraiment mignonne. Être habillé comme la chienne à Jacques. J'ai l'impression que tu n'as rien compris bon. De absolument aucun
je
mot.
Je pense que chienne, c'est grossier, pas?
Chienne, ouais, ça peut être aussi le féminin de chien. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi très méchant à dire à quelqu'un, genre... C'est une chienne, on dit oui. pas ça. Okay. Mais là, être habillée comme la chienne à Jacques, ça veut dire être très mal habillée.
OK.
Oui.
Non, je sais. La première fois
si j'aimais pas tes vêtements aujourd'hui, je pourrais dire, voyons, Daniel, t'es habillée comme la chienne à Jacques.
Ah, OK.
Tu comprends? Okay. le mot arsou, est-ce que ça dit quelque chose? Arsou ici?
Non.
Ça veut dire viens-t'en. Il était ici, arsou.
Arsou comme viens ici?
Oui. Quelque chose comme viens ça? Ici, arsou. Arsou. Là, écoute, la façon de l'écrire, tu pourrais dire A-R-S-O-U, arsou.
OK.
Mais ça, il n'y a pas tout le monde qui va te comprendre à Québec. C'est vraiment une expression du lac Saint-Jean, ouais. plus dans le
Saguenay,
nord.
Saguenay-Côte-Nord okay, aussi, là, généralement, les gens vont l'utiliser beaucoup. Là.
Si, OK, j'ai mon voyage. Ça, c'est une expression. Hey, j'ai mon voyage.
J'ai mon voyage.
J'ai mon voyage.
Comme j'ai mes affaires, dire quelque chose comme ça, non?
Genre, je suis plus capable. Une autre expérience. Ah. On dit souvent qu'on n'est plus capable. Il y a « je suis à bout »,« j'ai mon voyage »,« je suis au
j'ai
bout ».«
Okay.
J'ai mon voyage ». Arrête de me raconter tes affaires. Là.
Ah,
j'ai mon
okay,
voyage,
okay.
tes
comme
histoires.
Comme j'ai plein de sortes d'affaires pour me
si
couper des
si on okay. veut,
mon
oui.
Oui.
Mon chien est mort.
Bon, c'est pas littéral, mais...
Non, c'est pas littéral.
Ah, mon chien est mort. Ah, comment est-ce que je l'utiliserai? Bon, comme mon opportunité, c'est fini?
Exactement. Ça okay. veut dire, j'ai plus de chance, mon chien est mort, c'est terminé, je passe à autre chose.
Okay.
Une dernière, Pascal?
Les bottines doivent suivre les babines.
OK. On rappelle ça.
les bottines?
Quand tu me parles, là, tes bottines doivent suivre tes babines, Daniel.
Tes bobines? De quoi?
Tes bottines?
Tes bottines doivent suivre tes babines.
Comme tu dois être, tu le dirais ça à quelqu'un qui doit être cohérent avec
exactement.
Ça qu'il dit.
Exactement.
Oui,
que ses conséquent. Actions doivent
okay.
être le reflet
ah,
de ses
okay.
paroles.
OK. Oui, oui.
oui.
Ah, nice.
Daniel, oh, c'était vraiment... C'était... Ben oui, ben, écoute, c'est des expressions qui sont très, très... Je vais être franche avec toi, on n'utilise pas ça dans notre langage courant de tous les jours. Là. On en a peut-être quoi, 2, 3, 4 par famille qui reviennent, mais c'est pas notre langage quotidien. C'était super le fun de jaser ce matin.
Merci pour la course de français.
Ben écoute, ça fait vraiment plaisir. Tu viendras nous faire un cours d'espagnol à un moment donné.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Daniel Flores, qu'on a reçu ce matin dans l'Open Mic, qui est un Mexicain installé à Québec depuis 438 jours précisément, mai 2023. Apprentissage du français, mais son quotidien sur les réseaux sociaux. Super le fun à suivre. Si on veut te suivre justement sur TikTok, c'est quoi ton compte?
Donc, c'est coco_street. Et comment est-ce que j'ai dit?
Bar en bas.
Bar
okay,
en bas.
Coco, bar en bas. Street.
Street comme une rue.
En anglais, oui, oui.
Puis là, ça venait, tu nous l'as raconté tantôt, je trouvais ça mignon. Coco, c'est ton surnom?
Coco, c'est mon surnom que mon père m'a pogné.
M'a donné
quand je tenais parce que j'avais pas de cheveux. Et Street, c'est parce que j'aime la finance, donc Wall Street. Donc c'est Coco, surnom, Street de Wall Street. C'est
Coco, bar en bas, Street, si jamais vous voulez aller suivre, c'est son quotidien sur les réseaux sociaux. Je veux te dire encore merci de t'intéresser à notre langue, à notre culture. C'est vraiment
merci
apprécié. Les éditeurs ont vraiment aimé qu'on te reçoive ce matin. Donc je te souhaite une super belle journée, puis à bientôt.
Merci, bonne journée.
Vous êtes dans l'Open Mic, 11h15, Bob Bissonnette. La balade des malades, on revient.